Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux tensions immobilières dans les zones touristiques. À l'ordre du jour ce soir, flambée immobilière, quelle place pour les locaux ? Au Pays Basque, en Bretagne, en Corse, région attractive pour les vacanciers et les télétravailleurs, on a vu exploser récemment le marché locatif de courte durée et de la résidence secondaire. Dans ces régions, comme d'ailleurs à Paris, des élus locaux ont tenté de mettre en œuvre des règlements pour ralentir la croissance des loyers ou encore pour empêcher la pénurie de logements. Cependant, tribunal administratif ou conseil d'État, sollicités par les propriétaires, ont émis des doutes sur la légalité de ces décisions municipales, provoquant parfois, comme au Pays Basque, des manifestations. En Bretagne, à Corrèze, une résidence secondaire a été incendiée récemment. Bref, la tension peut monter à mesure que des habitants ne trouvent plus à se loger en raison de la pénurie ou de la hausse des loyers. Nous allons en discuter avec trois invités. Neil Kawissin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller général régional de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Vous avez publié en 2021 un manifeste pour un statut de résident en Bretagne aux Presses populaires de Bretagne. Avec nous également Jean-René Tchégaray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire UDI de Bayonne et président de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Et enfin, troisième invité, Lydie Launay. Lydie Launay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Institut national universitaire Champollion et membre du laboratoire LIST du CNRS.
Les gens qui viennent, on comprend qu'ils viennent, Saint-Malo c'est beau, donc il y a plus d'un million de touristes qui viennent par an à Saint-Malo, ça nous gêne pas. Mais du coup, les gens qui viennent, au lieu de vivre la ville, ils la consomment. Il la consomme comme on prend une canette dans un distributeur automatique ou autre chose. Et le jour où ça ne sera plus qu'une résidence hôtelière avec des remparts autour, petit à petit, plus personne ne viendra. On passera une journée à faire le tour des remparts, ce qui prend 30 minutes et ça sera fini. Donc si on veut que ce soit une vraie ville, il faut qu'il y ait des vrais habitants. S'il faut qu'il y ait des vrais habitants, il faut qu'ils aient de quoi se loger à des tarifs normaux pour acheter ou pour louer. Il faut qu'ils aient des commerces et des services publics qui correspondent à une ville.
Du côté des professions liées au tourisme, l'avis est moins tranché, même si chacun est conscient des limites du système.
Je sais que ça pose aussi des problèmes intramuros, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, les changements d'habitation réguliers là. Dans certains immeubles, c'est un peu le bazar parce qu'il n'y a plus qu'un appartement annuel à l'année et autrement c'est que des gens à la semaine. Donc ça pose un peu des problèmes pour les locaux. Ouais. Après, je ne vous cacherai pas que nous, pour notre activité, c'est pas forcément négatif d'avoir des gens qui viennent ponctuellement sur nos sites de pratique nautique. Là.
Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage de France 3 à Saint-Malo avec d'abord un membre du collectif Saint-Malo, J'y suis, j'y reste, et le responsable d'un centre nautique. Vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit, Jean-René Tchégaray, bien que vous soyez donc depuis Bayonne, puisque vous êtes maire UDI de Bayonne.
Oui, je me retrouve complètement dans ce qu'a indiqué la première personne qui a été interviewée. Nous sommes au Pays Basque, une situation que je qualifie de catastrophique, puisque certes, on se réjouit que notre pays soit attractif, au point que 3000 nouveaux arrivants sont comptabilisés chaque année au Pays Basque, notamment sur la frange littorale, mais c'est aussi en constatant la flambée des résidences secondaires. Songez que sur 5 ans, les résidences secondaires ont augmenté de 130%, au point qu'aujourd'hui, nous avons 43 000 résidences secondaires au Pays Basque, soit à peu près 23%. Ceci comparé à Nice, à 13,8% ou à Paris à moins de 9%. Je suis en train de vous dire que la situation au Pays Basque devient à ce point préoccupante que la population a le sentiment d'être expropriée, ni plus ni moins. Il y a une jeunesse ici au Pays Basque, des gens qui sont nés, qui ont grandi ici et qui ne malheureusement ne pourront pas continuer leur vie ici.
Vous aviez adopté une délibération dans la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui regroupe 158 communes, qui voulait réglementer tout cela, un peu à l'image de ce qui a été fait à Paris ou à Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au bout du compte, Jean-René Tchégaray?
Alors, nous avons été retoqués, si j'ose dire, en tout cas notre règlement tel qu'il a été voté par l'Assemblée de la communauté d'agglomération, retoqués par le juge des référés administratifs qui donc a décidé de le, non pas de l'annuler pour l'instant, mais de simplement en suspendre son
exécution.
Voilà, et donc les raisons pour lesquelles ceci est intervenu, nous surprennent. Nous avons d'ailleurs décidé de saisir le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, mais notre intention, c'est aussi de revenir devant le juge des référés administratifs, car nous avons été retoqués sur trois points de pure forme, si
allez-y
j'ose dire,
brièvement.
Qui nous paraît pouvoir être effectivement justifié une levée de cette suspension. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des aspects juridiques ou réglementaires, il faut bien se rendre compte que nous avons un état de droit qui donne pas beaucoup de latitude aux collectivités territoriales. Ce que nous avons tenté et que nous allons maintenir au Pays Basque, car nous n'avons absolument pas l'intention de baisser les bras, c'est ce règlement qui effectivement vient limiter la création de nouvelles résidences secondaires eu égard à ce que je viens d'indiquer.
Alors, Neil Kewissin, vous vous trouvez donc, vous, en Bretagne. Vous êtes donc depuis France Bleu, Brésil, à Quimper. Vous êtes conseiller régional de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, et vous avez créé un manifeste pour un statut de résident en Bretagne. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous, puisque c'était un texte que vous avez publié l'année dernière?
Eh bien, en Bretagne, nous sommes aussi confrontés au problème de résidence secondaire qui, conjugué à la croissance démographique, pose des très graves problèmes de logement, des problèmes qui empirent d'une année sur l'autre. On a 330 000 résidences secondaires en Bretagne, c'est de quoi loger plus que la population des Côtes d'Armor. Et là, je vous donne les chiffres de 2018, on est probablement un peu plus aujourd'hui. Donc il y a une batterie de solutions possibles. Alors pour les le phénomène des maisons qu'on achète pour y passer 2 mois par an, ce qu'on propose, c'est le statut de résident principal.
Alors ça n'est plus si souvent le cas, d'après ce que j'ai compris, parce que l'évolution de l'immobilier touristique ou l'immobilier de résidence secondaire fait que il y a de moins en moins, dit-on, de gens qui n'y vivent que 2 mois par an et de plus en plus de gens qui en profitent tout au long de l'année tout de même.
Et écoutez, je vis sur un de ces territoires et je peux vous dire que sur la Apéros Guirec en février, il y a des endroits où tous les volets sont fermés. Donc en fait, ça s'ajoute. On a le phénomène de location de courte durée, le fameux modèle Airbnb, qui vient s'ajouter au phénomène des résidences classiques, mais qui ne le remplace pas, en fait. Donc c'est une aggravation du phénomène. Le principe du statut de résident, c'est de réserver sur certains territoires le droit d'acheter des logements ou des terrains à bâtir aux personnes qui y résident depuis au moins un an, quelle que soit leur origine, de manière en fait à réduire drastiquement les achats de résidences secondaires, sans interdire évidemment les installations de nouvelles populations. Et c'est une proposition qui est complémentaire avec les règlements municipaux qui, eux, visent plutôt à limiter la part des locations de courte durée.
Lydie Launay, vous étudiez donc en tant que maîtresse de conférences en sociologie ces questions en particulier de rééquilibrage sociaux ou social des territoires dans un contexte de ce qu'on appelle dans le langage donc de la sociologie les mobilités résidentielles. Est-ce que cette question des mobilités résidentielles est une question qui s'est aggravée au fur et à mesure des années et en particulier dans ces zones touristiques depuis la question de la Covid, depuis la crise de la Covid?
Alors, les premiers résultats des enquêtes menées sur justement les mobilités résidentielles depuis le Covid montrent que on a deux types de mobilités qui ont pu participer à la flambée des prix de l'immobilier. On l'a déjà évoqué, hein, les mobilités de courte durée. Donc, il s'agit en réalité des séjours de quelques jours ou semaines sur le littoral, à la montagne ou à la campagne, hein, des lieux qui ont été particulièrement appréciés pour traverser ces périodes de confinement, ce qui effectivement stimule, hein, le marché de la location à courte durée, mais se répercute sur les autres segments du marché en réduisant le stock de logements mis en location pour la longue durée ou vendus en tant que résidence principale. On a également des mobilités cette fois-ci plus durables liées à des changements de résidence principale ou semi-principale, hein, qui ont été facilités par le développement du télétravail, également par des projets de reconversion professionnelle et dans le cas de personnes plus avancées en âge, d'une recherche de lieux de villégiature pour d'une certaine façon anticiper l'arrêt de leur activité professionnelle.
Donc avec une possibilité d'installation définitive dans ces régions.
Tout à fait.
Et ça, c'est le type de ce que vous avez pu voir en faisant des enquêtes justement sur ces mobilités résidentielles. Est-ce que, d'après ce que vous avez pu noter, cela provoque des tensions, comme viennent de le noter à la fois Neil Kewissin et Jean-René Tchekaray, avec des gens qui sont installés depuis plus longtemps dans les régions en question?
Alors, notre enquête ne nous a pas permis, en fait, à ce jour, de travailler sur ces rapports avec les personnes installées localement depuis plus ou moins longtemps, d'ailleurs. Mais ce que l'on peut ce que laisse présager en tout cas ces mobilités résidentielles, et c'est là quelque part où elles posent problème, c'est qu'elles produisent des effets différenciés bien sûr selon les espaces concernés. Elles sont révélatrices d'inégalités face au logement qui clairement s'accroissent depuis plusieurs décennies. Ce ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais on peut supposer que ces flux alimentent en fait des processus de ségrégation sociale à l'échelle locale, avec, comme l'a déjà évoqué en fait les intervenants, un potentiel refoulement de ménages, notamment de jeunes ménages peu fortunés, qui ne parviennent pas ou plus à se positionner sur le marché local.
C'est ce que vous appelez, Jean-René Tchégaray, le jeu mortifère de l'offre, de la loi de l'offre et de la demande.
Oui, absolument. Ce que vient de dire notre chercheuse, c'est effectivement sur ce que nous vivons au quotidien. C'est qu'effectivement, nous avons à constater, nous les élus qui recevons notre population dans nos mairies, que un rendez-vous sur deux est justifié par la recherche d'un logement. Et que lorsqu'on multiplie dans cette proportion que j'ai indiquée tout à l'heure, le nombre de résidences secondaires, dont une bonne partie deviennent aussi des meublés de tourisme, sur les 24 communes de la zone tendue, de fait, effectivement, les personnes sont refoulées. Je parle d'expropriation de fait, le mot peut paraître un petit peu fort, mais enfin, socialement, c'est bien ce qui se passe.
Et ça veut dire que, par exemple, des jeunes ménages, des jeunes travailleurs ne trouvent pas à se loger et qu'il faut donc qu'ils s'éloignent de la zone touristique en question, même s'ils y travaillent, par exemple.
Mais songez que nous, il y a 10 ans, lorsqu'on nous disait qu'en région parisienne, il fallait 1 heure le matin, 1 heure le soir, entre le domicile et le travail, on pensait que c'est quelque chose qui nous arriverait jamais. Et c'est exactement ce qui nous arrive ici. Nous avons, j'ai dans ma mairie, des secrétaires qui font presque 3 quarts d'heure, voire 1 heure de route le matin et le soir. Et nous ne pouvons pas avoir des moyens de transport en commun qui soient satisfaisants. Donc, ce qui veut dire qu'aussi, on est dans un cercle qui n'est absolument pas vertueux sur le plan environnemental et de la transition écologique et énergétique.
Mais il y a l'exemple, effectivement, et on le sait, malheureusement, des couples qui divorcent, par exemple, Milka Wissin, qui ne peuvent pas se séparer momentanément et qui parfois, donc ça c'est évidemment pour le pire, peuvent être le lieu de violences familiales, justement. Des étudiants qui doivent rester chez leurs parents et qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu où ils prennent les études, etc. etc. Ça fait partie, effectivement, de ces cas de figure qu'il faut additionner pour pouvoir comprendre l'ampleur du phénomène.
Tout à fait, on en voit de plus en plus. On pourrait aussi ajouter le problème des familles monoparentales. Hein. On avait cité les jeunes tout à l'heure. Les familles monoparentales sont aussi très touchées par ce problème parce qu'elles ont plus de mal à obtenir des locations. Et donc, on a une aggravation assez rapide des difficultés sociales dans les zones touchées.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous sembliez dire tout à l'heure, Jean-René Tchégaray, que vous aviez pris des mesures, donc en particulier pour compenser les mètres carrés perdus pour l'habitation des résidents à l'année, et donc pour transformer d'autres espaces en appartements durables, que ça a été retoqué, on l'a dit, au tribunal administratif momentanément. Mais comment les élus de communes touristiques, comme vous pouvez l'être, discutent-ils entre eux pour pouvoir justement trouver des solutions à cette crise du logement, à cette augmentation des loyers? Alors, il y a des exemples en Corse, il y a des exemples en Bretagne, on le sait, il y a des exemples, on l'a entendu au tout début, à Saint-Malo, à Paris, à Bordeaux, la mairie a pris des décisions également. Mais qu'est-ce qu'il y a comme solution qui se présente justement pour des élus comme vous?
Alors, des solutions, il y en a. L'une d'entre elles, c'est l'une des briques dont on a parlé tout à l'heure, c'est la mesure de compensation. Et donc, nous avons introduite par ce règlement qui n'est pas encore consolidé à cause du recours et de la décision du tribunal administratif de Pau. Mais nous sommes également sur d'autres perspectives, sur d'autres briques que nous voulons mettre l'une à côté de l'autre. Et c'est par exemple le plafonnement des loyers que nous envisageons. En tout cas, puisque nous sommes en zone tendue, nous avons également la possibilité et nous avons saisi cette occasion à la faveur de la loi 3ADS qui vient d'être votée par le Parlement de pouvoir nous inscrire dans le cadre d'une expérimentation pour effectivement qu'il puisse y avoir un plafonnement des loyers et ceci est quelque chose qui va pouvoir être mis en place également. Alors là on est sur du locatif mais c'est extrêmement important et c'est d'autant plus important que nous avons ici, au Pays Basque, en manque de logements sociaux, en tout cas sur un certain nombre de communes, dont certaines sont même carencées, et dont en quelque sorte le rattrapage sera difficile. Il y a aussi, monsieur, une autre perspective et qui renvoie non pas à une solution locale, mais à une solution nationale, c'est la fiscalité. Imaginez aujourd'hui qu'un propriétaire a 1000 fois plus de raisons de faire du meublé touristique que d'offrir son appartement, en quelque sorte.
Parce qu'il y a des procédures de défiscalisation, c'est ça?
Parce qu'il y a effectivement des abattements fiscaux, une forme de niche fiscale qui existe dans la législation française et qui fait que, en effet, non seulement donc ce propriétaire va louer 3 ou 4 fois plus cher son logement parce qu'il le mettra effectivement en meublé touristique, et derrière ça, pour peu que cette personne ait des revenus importants, eh bien elle va pouvoir déduire des sommes extrêmement importantes parce qu'il y a des abattements. Ça peut aller jusqu'à 50 voire 60 000 euros pour un contribuable, ces abattements. C'est considérable. Donc il faut aujourd'hui une justice fiscale parce qu'il faut une morale dans le foncier, et c'est la raison pour laquelle nous allons demander aux parlementaires, lorsqu'ils seront installés, mais tout simplement de réfléchir à cette question, et il nous faut une réforme de la loi fiscale sur ce point.
Lydie Launay, est-ce que justement le mouvement est assez d'ampleur, comme vous y travaillez en tant que sociologue, ce mouvement des mobilités résidentielles, pour que les représentants de la nation s'en emparent, ou est-ce que il est localisé, vous disiez tout à l'heure, il est localisé dans certaines parties du territoire, et il touche particulièrement certaines classes sociales?
Alors, c'est vrai que si à ce jour, on manque encore de données précises pour mesurer avec exactitude l'ampleur de ces mobilités résidentielles, on voit que concrètement, là je me réfère notamment aux enquêtes menées dans le cadre du projet PopSul Territoire sur l'exode urbain, on voit que ces mobilités ont des effets importants localement. Donc ce ne sont pas en fait des mobilités qui sont massives, qui sont de grande ampleur, cependant,
ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes qui se déplacent, mais néanmoins ceux qui se déplacent ont la possibilité, parce qu'ils vont dans des villages, des villes, des bourgs ou des grandes villes, de changer la donne d'une certaine manière de l'immobilier dans cette région.
Tout à fait. C'est ce que montrent vraiment ces enquêtes PopSul Territoire sur l'exode urbain, qui relativisent en fait cette hypothèse de l'exode urbain massif. Par contre, on voit bien que ces mobilités résidentielles représentent un phénomène qui est socialement sélectif. Elles concernent davantage les ménages de catégories supérieures, notamment des catégories qui sont plus avancées en âge, et également ceux qui peuvent vendre en fait un logement acquis de longue date dans une zone très tendu, comme par exemple en région parisienne, pour réinvestir ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a vu notamment avec Michel Grossetti dans l'enquête La vie en confinement. Ces mobilités, en fait, peuvent créer des situations de blocage des parcours résidentiels, et particulièrement, comme je disais tout à l'heure, pour les ménages moins aisés, pour les personnes plus jeunes, qui n'ont pas pu se constituer un capital nécessaire pour investir et qui font face à la montée des prix des loyers, et qui rencontrent en fait des difficultés accrues pour se positionner sur le marché local. Alors que, pour certains, le projet résidentiel qui a été construit avant la crise Covid leur paraissait tout à fait réalisable. Donc on voit qu'effectivement, ces phénomènes locaux ont des effets très importants sur les parcours de vie.
Oui, vous citez par exemple une personne de Saint-Brieuc qui, voyant les prix de l'immobilier monter, a décidé de faire une plus-value, mais le temps qu'il fasse sa plus-value et qu'il se dote d'une nouvelle maison ou un nouvel appartement, il n'a pas pu se repositionner, comme on dit en termes en particulier d'agence immobilière sur le marché immobilier, et il a été contraint de se déplacer, de ne pas se réinstaller là où il avait prévu de le faire, par exemple.
Exactement. Ou alors, je pense aussi à un ouvrier qui devait vendre son appartement pour acheter une maison avec sa compagne. La vente de son appartement a été annulée en raison d'un défaut de prêt. Et entre-temps, il a perdu son travail et les prix des maisons ont augmenté. Donc, ce couple doit renoncer à son projet. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que la crise a pu laisser des traces profondes sur les vies professionnelles, personnelles des personnes.
Bien sûr.
Avec des pertes ou des changements d'emploi, des séparations, comme on l'a dit tout à l'heure, qui implique de chercher un nouveau logement, mais C'est beaucoup plus difficile, effectivement, lorsqu'on habite dans une zone où les prix se sont envolés. Mais aussi, dans certains cas, on voit des changements d'aspiration en termes de conditions de logement et de cadre de vie. Des conditions de logement qui nous apparaissaient tout à fait acceptables avant la crise ne le sont plus à la suite, justement, des confinements successifs. Et on voit parfois aussi des logiques d'anticipation, c'est-à-dire des personnes qui ont peur de vivre une crise à nouveau et d'être à nouveau confinées et de ce fait changent en fait leur projet résidentiel.
Vous écoutez Le Temps du Débat, 18h41 sur France Culture. Flambée de l'immobilier dans les zones touristiques, quelle place pour les locaux? C'est la question que nous posons avec Neil Kawissin, qui est conseiller régional de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Jean-René Tchégaraïde, qui est maire UDI de Bayonne et président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et Lydie Launay, que vous venez d'entendre, maîtresse de conférence en sociologie à l'Institut national universitaire Champollion.
Une maison, puisque située à Bidart ou à Biarritz, une maison de 150 mètres carrés, aujourd'hui, a une valeur importante. Et ce que recherche le pouvoir public, c'est de louer à tous les gens qui ne peuvent pas se loger, ce qui est compréhensible. Mais si je vends ma maison à la valeur de la maison, ce sera sûrement des gens de l'extérieur qui viendront l'acheter.
Je pense que c'est un appartement que je vais vendre. Hein. Je ne pense pas d'ailleurs, j'en suis sûr. J'ai déjà des acheteurs potentiels, mais qui ne sont pas de la région. Et ça sera un appartement qui ne servira que pour qu'ils viennent en vacances. Donc le problème de logement ne sera pas résolu.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Deux propriétaires de biens loués à des touristes sur la côte basque. C'est un extrait d'un reportage d'un côté de France 3 et un extrait d'un reportage de TF1. On voit bien qu'ils disent, eh bien, si nous vendons, ça n'est pas effectivement les locaux, les habitants de la région qui pourront reprendre ces logements qui sont évidemment beaucoup plus chers que l'immobilier local. En l'occurrence, Jean-René Tchégaraï et puis Neil Kawissin. Jean-René Tchégaraï.
Oui, cet argument-là, on l'entend tous les jours.
Bah, j'imagine.
Qu'à cela ne tienne, on vend et vous n'aurez pas fait avancer vos affaires, car ce sont des personnes fortunées qui vont acheter ça et qui décideront de l'occuper que un ou deux mois dans l'année. Je ne crois pas que cet argument tienne, même si le fait qu'ils puissent le vendre, c'est possible, qu'ils puissent se vendre à des personnes qui auront des moyens, et ce sont des personnes étrangères à notre territoire qui feront cette acquisition, c'est tout à fait vraisemblable. Maintenant, il y a aussi quand même une gestion financière et je pense aussi que les acquéreurs se poseront ce type de questions. Et je ne crois pas du tout que les mesures que nous sommes en train de prendre au Pays Basque auront cet effet qui est actuellement mis en évidence par un certain nombre de, je serais tenté de dire, de déçus. Parce que vous savez, il s'est trouvé beaucoup de notaires au Pays Basque, beaucoup d'agents immobiliers aussi, de conseils financiers qui ont dit à des personnes, écoutez, achetez au prix que qui vous est proposé, vous faites des travaux, vous ferez un crédit et n'importe comment vous rembourserez largement votre crédit par le produit de la location et les avantages fiscaux dont je parlais tout à l'heure. Alors, on est en train de casser en quelque sorte un système et je crois que à terme, ceci produira ses effets. Du reste, à Bordeaux, et j'ai comparé cela avec la situation bordelaise, avec à la fois l'adjoint à l'urbanisme de Bordeaux, et puis également le maire de Bordeaux que je connais bien, et on a constaté, avec la mesure de compensation dont j'en parlais tout à l'heure, le seul fait qu'elle était mise en œuvre, qu'on y ait pensé, et qu'on décide de toute façon d'aller dans cette direction, et je confirme qu'on le fera, quoi qu'il arrive, eh bien, ça dissuade malgré tout un certain nombre de nouveaux investisseurs d'aller dans cette direction. Et déjà, j'estime que de ce point de vue, on a marqué un point.
Neil Kawissin, votre manifeste pour un statut de résident en Bretagne a parfois été mal compris, et on peut le comprendre aussi en disant, bah, est-ce que on sera interdit d'investir ou d'acheter en Bretagne, et donc à partir de ce moment-là, est-ce que ça sera la Bretagne aux Bretons, point barre. Ça n'est pas ce que vous vouliez dire, mais néanmoins, expliquez-vous sur ce point.
Bien sûr. Alors, il s'agit uniquement de la notion de résidence, c'est-à-dire que pourraient acheter dans les territoires en tension les personnes qui résident à titre principal depuis une année, quelle que soit leur origine. C'est-à-dire que des gens qui veulent venir s'installer en Bretagne, au bout d'un an de vie sur place, pourront acheter comme tous les autres et auront accès à un marché finalement beaucoup moins tendu, donc plus accessible. Et de toute manière, quand on vient s'installer en Bretagne aujourd'hui, tout le monde ne peut pas acheter tout de suite, pour d'évidentes raisons. Si vous n'avez pas vendu un appartement à Bordeaux ou à Paris, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas acheter. Et attendre un an avant d'acheter, c'est pas extrêmement punitif. Au contraire, c'est plutôt prudent. Ça permet de vérifier qu'on est bien là où on a choisi de s'installer, de prendre connaissance du pays. Et donc, ça n'entrèvera pas les installations permanentes. Ce n'est pas l'objectif.
Qu'est-ce qui empêche que cette proposition que vous voulez faire, vous-même, Neil Kawissa, en tant qu'élu, puisse passer justement dans la pratique, pourrait-on dire? Est-ce qu'il y a des barrières légales justement à une telle proposition?
Oh ben, il faudrait une nouvelle loi. Aucune commune, département, région ne pourrait mettre ça en place toute seule, puisque voilà, globalement en France, c'est l'État qui fait la loi uniquement. Donc il faudrait que ça passe par une nouvelle loi. De toute manière, donc là évidemment, c'est un processus qui est long. Il faut trouver des parlementaires prêts à porter la mesure. Il faut convaincre. Et il y a des réticences parce que voilà, c'est une mesure qui heurte des sensibilités idéologiques. Donc un gros travail.
Mais vous comprenez
à faire.
Que ça puisse heurter justement.
Bah, il y a déjà la question des préjugés. Moi, au départ, je me suis heurté à des gens qui comprenaient la mesure de travers, croyaient que ce serait que pour les gens qui parlent breton, ce genre de choses. Donc, d'abord, j'ai eu un gros travail de déminage à faire sur le sens de la mesure. Et je constate qu'aujourd'hui, en Bretagne, le débat s'est apaisé. Non pas que tout le monde soit d'accord, mais le débat s'est porté sur la question de l'efficacité, des inconvénients potentiels, des paramètres, et non plus sur le principe même. Je pense que tout le monde a compris que c'était pas du tout une proposition xénophobe. Le temps, la pédagogie, l'échange permet de faire avancer cette idée.
Alors, il y a aussi, effectivement, ce fait que, alors c'est peut-être un hasard, mais nous avons choisi donc un élu breton, un élu basque, que en Corse en particulier, il y a déjà des tentatives aussi pour pouvoir justement éviter, en particulier, des ventes de trop grands espaces fonciers à des promoteurs immobiliers. Est-ce qu'il y a un hasard, Jean-René Tchégaray, sur le fait que ça se passe dans des régions qui ont aussi une identité locale très forte et qui donc peut-être voit ressurgir quand on voit des slogans le Pays Basque n'est pas à vendre dans les manifestations qui ont lieu chez vous, eh bien on se dit il y a des slogans qui sont aussi des slogans d'autonomie, des slogans de régionalisme, des slogans de volonté d'affirmer une identité locale qui serait bouleversée par ces pressions immobilières.
Voilà, je suis très sensible à cette problématique et qui me préoccupe beaucoup comme élu du Pays Basque et président de la communauté Pays Basque. Nous vivons depuis quelques mois maintenant une série d'actions, des tags qui sont réapparus sur des agences immobilières reprenant les slogans dont vous venez de parler et que nous croyons définitivement enterrés. Ils sont, je voudrais le dire ici, malgré tout, le fait d'une minorité, mais une minorité qui, malgré tout, s'exprime pour dire que le Pays Basque va être entendu. Et nous ne cessons de dire au Pays Basque qu'il faut régler les problèmes du Pays Basque les uns après les autres. Il se trouve, et c'est pas l'objet de votre émission, mais que nous avons un processus de paix au Pays Basque qui est complètement en panne du fait d'une forme de surdité des gouvernements successifs. Nous avons un certain nombre de prisonniers qui sont depuis 32 ans dans les géoles, malades pour la plupart, et que nous n'arrivons pas à faire libérer. Encore aujourd'hui, l'un d'entre eux vient, alors même que le tribunal de première instance a décidé de lui accorder la libération conditionnelle, d'apprendre que le parquet national antiterroriste avait décidé de faire appel.
Nous en appelons. Vous voulez donc dire que cette condition immobilière se pose dans des régions qui ont été marquées par une certaine violence et que vous craignez en tant qu'élu, vous qui avez participé avec d'autres à apaiser les tensions, à faire en sorte que vous craignez que ces tensions ne renaissent à l'occasion justement de ces tensions immobilières. C'est ce que vous laissez entendre.
C'est exactement cela et je dis soyons prudents. Faisons très attention. Ce message s'adresse bien sûr à l'État, principalement, auquel nous voulons dire ce que j'ai indiqué tout à l'heure, changeons la fiscalité. Il faut aller, et certainement dans une modification de la loi que mon collègue breton rappelait tout à l'heure et que j'appelle aussi de mes voeux, mais aussi une forme de différenciation dans les territoires des dispositifs juridiques. Il faut que chacun de nos territoires soit traité au regard de ce qu'est sa spécificité. Je parle pas que de son identité mais de sa spécificité, et ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un État français qui veut fonctionner d'une manière unique univoque et de la même manière que l'on soit dans la Creuse, dans la Corrèze ou qu'on soit en Bretagne ou au Pays Basque. Ouais. Ce sont pas les mêmes problèmes.
Ni le Kawissin, quand on voit naître des tags avec le FLB sur une maison qui a été brûlée, une maison de résidence secondaire, on se dit oui, il y a cette arrière-fond historique qui n'est pas peut-être pour rien dans cet énervement que l'on ressent parfois en Bretagne, mais en même temps, c'est le fruit d'une attractivité, c'est le fruit aussi de ces régions qui sont désirées. Donc comment faire pour pouvoir justement ne pas, disons, mettre à mal cette attractivité, qui commercialement, on l'a bien entendu tout à l'heure dans le reportage de Saint-Malo, eh bien, fait qu'il y a des commerces qui tournent, il y a des emplois qui sont créés, etc., tout en justement faisant en sorte que ces logements ne soient pas trop chers.
Alors, tout d'abord, effectivement, c'est le fruit d'une certaine attractivité, mais on en est arrivé à un point aujourd'hui où elle s'étouffe elle-même en un sens, puisque une certaine forme de tourisme, pas tout le tourisme, une certaine forme de tourisme détruit d'autres activités. Moi, je discutais il y a un mois avec un patron de Belle-Île, une entreprise de plomberie, qui a perdu tous ses salariés puisqu'aucun ne pouvait plus se loger sur l'île et qui lui-même va mettre la clé sous la porte. On a des difficultés pour recruter des saisonniers pour les activités agricoles, mais aussi touristiques, par exemple. À Perros-Guirec, il y en a qui dorment dans leur voiture ou au camping. Voilà, on en est à ce point où le tourisme lui-même commence à souffrir de certaines dérives. Alors, il s'agit évidemment pas d'interdire le tourisme, mais de réguler pour éviter que certaines formes viennent étouffer d'autres activités.
Lydie Launay, justement, cette question de ce rééquilibrage social des territoires, avec en plus, on l'imagine bien, vous le disiez, des tensions autour des revenus, puisque des gens qui peuvent se réinstaller dans des zones touristiques qui sont par essence assez chères, ce sont des gens qui n'ont pas exactement les mêmes revenus que ceux qui vivent sur place.
Oui, tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, ces mobilités résidentielles affectent les situations et les projets de logement de ménages moins aisés qui résident dans ces zones en tension. Mais il faut aussi garder en tête que d'autres personnes qui sont installées localement tirent leur épingle du jeu.
Oui.
Il ne faut pas perdre de vue.
Il n'y a pas que des perdants dans cette affaire.
Et non. Il ne faut pas perdre de vue que des ménages qui possèdent un bien, voire plusieurs biens, peuvent tirer parti de cette flambée des prix en effectuant une plus-value importante. D'où, il me semble, l'importance aussi de ne pas réifier en fait, des catégories spontanées qui suggéraient, par exemple, une position un peu dichotomique entre les locaux et les nouveaux venus, et qui masquent en réalité une très grande hétérogénéité des situations des ménages. Et il me semble que, plus largement, cette question soulève le phénomène de multipropriété, qui n'est pas nouveau, mais est révélateur des inégalités de logement qui se creusent en France. Et on le voit avec l'envolée des prix dans ces villes touristiques, ça la met sous les projecteurs les problèmes de la captation du capital foncier immobilier par une minorité de ménages.
Oui, et cela, effectivement, comment le régler, justement, Jean-René Tchégaray? Vous avez parmi vos électeurs, j'imagine, des gens qui tirent profit de cette forte attractivité de cette région qui est la vôtre, la région de Bayonne et du Pays Basque.
Oui, sans doute, parce que on est dans un système. Donc moi, je condamne pas les personnes en soi, mais je condamne le système dans lequel nous sommes entrés. D'ailleurs, vous me parliez tout à l'heure, mais quels sont les moyens que vous avez, vous les élus, de vous mobiliser, etc. J'ai tenté de répondre. Il y a aussi le travail que les copropriétaires peuvent faire aussi entre eux. Songez qu'au Pays Basque, comme ailleurs, maintenant, c'est la grande majorité de nos logements sont dans des copropriétés. Or, la quasi-totalité de ces règlements de copropriété interdisent le commerce. Or, l'immobilier touristique sont une forme de commerce. Et je voudrais sur votre antenne dire à tous les copropriétaires, en tout cas du Pays Basque ou d'ailleurs, qu'ils aillent se plonger dans ce règlement de copropriété, voir si le commerce est interdit, et si tel était le cas, eh bien tout simplement venir le manifester auprès du syndic pour faire en sorte que ces meublés de tourisme, qui sont quelquefois aussi la source de nuisances, parce que je voudrais vous dire le nombre de lettres que je reçois d'un certain nombre de personnes à Bayonne qui se plaignent en particulier de ce que le comportement de ces personnes-là qui sont là quelquefois pour deux semaines, trois semaines, un mois, et qui ne respectent pas tous, je ne généralise pas la situation, mais qui, dont tous ne respectent pas la quiétude de ces copropriétés. Alors, il y a aussi des moyens de droit privé, et pas forcément que l'action publique, pour parvenir à endiguer ce phénomène.
Neil Cawissin, est-ce que du côté de la Bretagne, dont vous êtes un élu régional, eh bien, il y a, disons, une sorte de consensus transpartisan qui s'est mis en place, ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes que quelques-uns, dont vous-même élu de l'Union démocratique bretonne, qui commence à réfléchir à cela, ou est-ce que, par exemple, avec votre collègue de, vous parliez de Belle-Île tout à l'heure, ou des collègues qui sont élus de Saint-Malo, de Saint-Lunaire ou d'ailleurs, qui sont des lieux à forte attractivité touristique, se mettent ensemble d'une certaine manière pour réfléchir?
Alors, il y a un consensus, quasi-consensus sur le constat. Tout le monde constate à peu près la même chose et l'analyse à peu près de la même manière. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus vraiment sur les solutions. Il y aura au Conseil Régional de Bretagne cet automne des assises du logement, un grand débat qui doit permettre d'essayer de trouver des réponses communes ou au moins d'en débattre. Mais jusque-là, on n'a pas vraiment eu un espace de débat entre les différents niveaux de collectivité, les différents élus et courants politiques sur cette question. Ça s'est fait à l'occasion de campagne électorale, mais les campagnes électorales sont pas forcément le meilleur moment pour construire du consensus pour d'évidentes raisons. Il y a certaines solutions qui sont consensuelles. Ça peut être par exemple la mise en place d'offices fonciers solidaires ou la réglementation, l'extension des réglementations municipales.
Qu'est-ce que l'office foncier solidaire, brièvement pour les auditeurs qui ne le connaissent?
Il s'agit en fait d'une solution pour l'accession sociale à la propriété. Les acquérants, finalement, n'achètent que le bâti sans le foncier, ce qui permet d'acquérir pour un peu moins cher, acquittent en échange une redevance en principe modique. Et par contre, au moment de la revente, les mêmes conditions s'appliqueront pour éviter que des biens vendus en accession sociale ne partent sur le marché spéculatif ensuite. Ça, c'est quelque chose qui est relativement consensuel et on voit ce type d'office fleurir en Bretagne et ailleurs.
Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir réfléchi ensemble au micro du temps du débat à cette question de la flambée de l'immobilier dans les zones touristiques. On voit bien effectivement que la question est complexe, qu'elle touche, et on a bien compris en vous écoutant en particulier Lydie Launay qu'il ne fallait pas appliquer la même chose un peu partout parce qu'il y avait effectivement des situations très différentes selon où on se trouve sur le territoire. J'imagine que si nous avions eu des élus de régions qui sont pauvres en tourisme par exemple, ils auraient été très heureux de voir des touristes arriver chez eux et y séjourner de manière temporaire ou beaucoup plus longue. En tout cas, merci à vous, Neil Cawissin. On remercie également France Bleu Brézizel qui vous a reçu dans ses studios de Quimper. Vous êtes conseiller régional de l'UDB, l'Union démocratique Bretagne. Vous avez publié en 2021 un manifeste pour un statut de résident en Bretagne aux Presses populaires de Bretagne. Merci à Jean-René Etchegaray qui était en direct de France Bleu Pays Basque depuis Bayonne. Vous êtes maire UDI de Bayonne et président de la communauté d'agglomération Pays Basque. On suivra évidemment la suite de votre recours, en particulier en référé devant le tribunal administratif. Et puis merci à Lydie Launay, maîtresse de conférence en sociologie à l'Institut National Universitaire Champollion et membre du laboratoire LIST du CNRS. C'était le temps du débat. Fanny Richer, Juliette Mouilic, Rémi Bay, Mathias Mégy, Bruno Baradin et Chloé Cambrelin. À la technique, Pierre Faucillon. À la réalisation, Thomas Jost.